L'invité de ce 12-30 a le talent de surprendre avec chacun de ses livres. On l'aime ou on le déteste, mais la critique n'est jamais indifférente. Et c'est peut-être parce qu'il fait partie de ces rares écrivains impossibles à classer dans un seul genre littéraire. Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Vous nous aviez laissé l'an dernier avec un roman d'aventure picaresque. Avant cela, vous aviez signé des romans que beaucoup ont essayé de classer dans le genre du polar. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment des polars. Et aujourd'hui, vous revenez avec un livre assez hybride, composé d'un essai et de la republication d'un ancien roman publié en 2016. On peut dire que vous êtes inclassable. Est-ce que vous aimez dérouter vos lecteurs ?
Oui, et puis surtout, j'aime bien dérouter l'auteur que je suis, parce que si je réécrivais chaque fois le même livre, je m'emmerderais assez profondément. Et là, l'idée, c'est en effet, comme vous l'avez dit, de proposer quelque chose d'un peu différent, d'un peu surprenant, parce que c'est vrai que le monde de l'essai, comme le monde du roman policier d'ailleurs, est très codifié. Et on n'a pas l'habitude de mettre les deux ensemble, c'est-à-dire le roman et l'essai. Généralement, on a le bon goût de faire l'un après l'autre. Mon éditeur, qui est un homme extraordinaire,
Olivier Moratel,
me dit « Mais écoute, ce roman, moi je l'adore, je lis ton essai, j'ai l'impression que les thèmes sont les mêmes, ça sert à rien, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. » Donc on a fait ce concept livre qui s'appelle « Sur la tranche au-delà de la décadence », mais en fait c'est qui est composé d'un essai surtout, l'essai Jean Laurin ou l'impossible fuite hors du monde, qui permet de redécouvrir aussi un auteur un peu mis de côté, injustement à mon sens, et qui va ravir, qui ravit d'ailleurs ceux qui le redécouvrent maintenant, les fans d'Oscar Wilde, il y en a beaucoup, les fans de Baudelaire, de Huysmans, qui tout à coup redécouvrent ce type et se demandent pourquoi on l'avait mis au placard aussi longtemps.
On va en parler de Jean Laurin dans un instant, mais quand même, moi, quand j'ai vu le livre qui s'appelle « Au-delà de la décadence », je me suis dit, ah tiens, c'est presque une provocation à l'heure du Covid, où certains pensent que justement on vit dans une société brimée, avec les mesures sanitaires très strictes, certains disent que notre société est en déclin, il y a une forme de provocation là-dedans ?
Alors, la provocation suprême de la part de mon éditeur et de moi, je pensais d'avoir sorti un livre qui ne parle pas du Covid. Mais bien sûr, il y a une espèce de décadence. C'est-à-dire qu'il y a au fond une pensée de la décadence qui est assez complaisante avec elle-même, généralement. Il suffit que, et comme l'étaient les contemporains de Jean Laurin, on dit que le monde dans lequel on est décadent, une fois pour toutes, et puis on arrête d'y penser, on a l'impression que c'est devenu quelque chose de figé. Et moi, j'ai voulu interpeller les lecteurs en disant, mais on peut peut-être dire qu'on est en décadence, mais Jean Laurin, justement, se disait déjà.
Qui était Jean Laurin pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Jean Laurin, c'est un auteur très étonnant qui vient de Normandie, qui arrive à Paris à la fin du 19e siècle, qui est un auteur, dès le début, très provocateur, qui aime déranger, qui aime bouleverser. Il était chroniqueur au Figaro, c'était un chroniqueur sniper, on dirait aujourd'hui.
Adepte des scandales, on peut le dire.
Adepte des scandales, il s'est battu en duel avec Marcel Proust, il a failli se battre en duel contre Maupassant, il aurait eu peur, paraît-il. Et il arrivait maquillé, lourdement fardé dans des réunions. Il était à peu près ouvertement homosexuel, ce qui, à la fin du 19e siècle, n'était pas du tout commun. Et donc c'est un personnage aussi très attachant parce que derrière ce côté flamboyant, il y a aussi quelqu'un d'extrêmement sensible, quelqu'un qui sans doute n'a jamais pu vraiment, alors je ne veux pas être trop freudien, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas cette grande stature imposante qui est très loin de ses prédilections esthétiques. Et donc au fond, ce Jean Laurin, on le sent un petit peu bouleversé dès le début, on le sent fragile et en même temps il a envie de montrer sa force, il la montre par l'écrit, il la montre par la plume, par les scandales aussi qui l'entourent, et il donne une œuvre en fait qui est une œuvre singulière. Inégale peut-être, mais vraiment singulière à beaucoup d'égards.
Une œuvre singulière dont vous parlez justement dans votre ouvrage, un essai. On est presque parfois entre l'explication de texte, ce qu'il faut comprendre, hein, ce qu'a voulu dire aussi Jean Laurin. Et puis on sent aussi qu'il y a une profonde admiration de votre part pour cet homme. Un homme qui n'était pas forcément à l'aise dans la société dans laquelle il vivait, si je peux le dire comme ça. En tout cas, il a critiqué cette société dite moderne.
Oui, comme beaucoup de cette nébuleuse qu'on a appelée les décadents, avec Huysmans notamment et quelques autres, hein, Paul Bourget, qui en effet se reconnaissent pas dans le monde moderne. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que on est aussi à une époque où beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans le monde moderne.
Hein. Et dans le monde d'aujourd'hui.
Dans le monde d'aujourd'hui, mmh. Et où il y a une peur aussi liée à la technologie. On le voit avec cette agitation anti-masque, anti-truc. Il y a tout d'un coup une crainte. Et Jean Laurin, au fond, montre cette peur-là. Il s'en moque aussi parfois parce qu'il est très critique sur lui-même. C'est pas du tout quelqu'un qui se contente de conchier le progrès de manière univoque, simplement par simple goût de la provocation. Il y a une réflexion sur cette notion de progrès dans un recueil de poèmes qu'on trouve qui est très rare maintenant, qui s'appelle Les Modernités, il rend aussi hommage d'une certaine manière au progrès, comme Baudelaire. Et je crois que comme Baudelaire, il a ce même regard ambivalent sur le progrès. À la fois, il est fasciné par ce nouveau monde qui arrive, qui sort des brumes, et en même temps, il est dérouté et il est peut-être angoissé.
C'est très parlant par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je l'ai lu cet essai et juste après, vous republiez votre ouvrage, votre roman « L'âge de l'héroïne » qui était sorti en 2016. Pourquoi ce choix ?
Déjà, il faut dire que une raison éditoriale, « L'âge de l'héroïne » n'était plus disponible puisque mon ancien éditeur a cessé ses activités. Je l'ai retouché parce qu'il y avait des choses qui me tiraient l'œil.
On a enlevé un peu le côté polar, j'ai l'impression.
On a enlevé un peu le côté polar, exactement. L'enquête est passée au second plan parce qu'en fait, elle était déjà au second plan. Et puis, mon éditeur actuel, Olivier Moratel, m'a dit « Mais va jusqu'au bout de ton idée, tu voulais pas faire un polar, fais pas un polar. » Et ça, c'était très élégant de sa part, donc j'ai retravaillé le texte. Et puis, les thèmes de l'âge de l'héroïne sont très proches de ceux que j'ai abordés dans mon essai, parce qu'au fond, j'ai commencé à travailler les deux à peu près au même moment. Et donc, j'ai découvert Jean Laurin et j'ai mentionné Jean Laurin, sauf erreur, dans « Trois gouttes de sang, un nuage de coke », un de mes précédents livres. Il planait encore sur l'âge de l'héroïne et je me suis dit bah, « Mettons-les ensemble maintenant ». Et je crois que ça permet aussi, le roman permet aussi d'actualiser en quelque sorte l'essai. Peut-être que l'essai fait comprendre différemment aussi le texte, le sort de son orbite de polar pour le plonger dans quelque chose d'un peu plus métaphysique, d'un peu plus existentiel. Et ça, c'était justement le but que je crois que vous avez très bien cerné.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est presque plus intéressant de commencer par le roman et ensuite d'aller sur Jean Laurin, parce qu'on comprend mieux aussi votre démarche. Parce que je crois que vous avez découvert Jean Laurin avant d'écrire ce roman, hein, c'est
absolument.
Ça. On le sent, justement. On le sent. Dernière question, quant à moi, on sort un petit peu de cet ouvrage-là. Il y a déjà 4 ouvrages qui ont été traduits en Suisse alémanique. Vous êtes un des rares, à traverser, rares auteurs romans, à traverser la Sarine. Vous savez comment la presse alémanique parle de vous ?
J'ai lu plusieurs titres. Qu'est-ce qu'elle a dit récemment ?
Scandale, auteur à scandale. Est-ce qu'elle a raison ? Vous êtes un auteur à scandale ?
Oui, moi j'aime bien. C'est vrai, j'avais vu passer ça. Ça m'a beaucoup plu. Mais naturellement, je suis toujours avide de flatterie. Et ça, je crois que oui. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis un auteur à scandale ou un auteur scandaleux. Mais en tout cas, c'est ce que me disaient les journalistes et les lecteurs souvent suisse-allemands. Mais en fait, je l'entends aussi au Romandie. Ils me disaient, mais j'aime bien parce que dans tes livres, au moins, t'as pas peur de parler simplement du monde qui est actuel, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que on lit des livres un peu désincarnés, c'est-à-dire qui se passent maintenant, mais qui parlent pas vraiment des problèmes qu'on rencontre, qui parlent pas vraiment de cette situation particulière qui est peut-être cette situation d'angoisse d'une décadence, ces choses-là, on les met un peu de côté. Je pense que oui, j'aime bien parler de ça. Je pense que Laurin aimait parler de ça et je pense que et Laurin et moi, on a certaines choses à dire sur le sujet.
Quentin Mouron, merci beaucoup. La presse alémanique, elle dit aussi Riesentalent, grand talent. La traduction littérale, si jamais, pour la prochaine fois.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu en direct dans ce 12-30. Ce livre qui parle du 19e, mais aussi d'aujourd'hui, s'appelle Au-delà de la décadence. Il est publié chez Olivier Moratel et il sera en librairie dès demain. Merci beaucoup d'être venu en direct.
Merci à vous pour votre accueil.
Bonne journée.
Au revoir.